Bonjour à tous et bienvenue aux bibliothèques, à la bibliothèque de l'Odéon, avec Frédéric Hollaine, auteur de Quintette, et qui est ce roman publié en 2014 et qui est toujours d'actualité en 2015. Ça fait plaisir grâce à Gérard Lamoureux, qui est l'organisateur du Festival des Outre-mer, de l'avoir inscrit pour cette programmation. C'est une première partie de cet après-midi. Nous commençons avec Frédéric Hollaine. Par la suite, une deuxième séance vous sera proposée avec Denis Pourawa et Paul Ouameau. Pour l'instant, nous allons parler de Quintette. C'est ce roman polyphonique avec cinq portraits, cinq figures majeures que Frédéric a choisi à travers l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis plus d'un siècle, une large partie autobiographique. Il nous en parlera, il nous fera aussi des lectures. C'est un auteur qui sait lire, ce qui n'est pas mal d'ailleurs, ce qui est appréciable. Donc, Quintette a été, c'est votre premier roman, Frédéric Hollaine, mais vous n'êtes pas tout jeune dans le métier. Vous êtes connu pour plusieurs registres, notamment la poésie. Vous avez créé une maison d'édition à Nouméa, où vous êtes né, en Nouvelle-Calédonie, une maison d'édition qui s'appelle L'Herbier de Feu et qui a aussi à voir avec les deux autres artistes que nous allons voir après, puisque vous les connaissez bien, vous les avez édités pour partie, Denis comme Paul. Donc on pourra également en parler. Ce n'est pas un territoire connu pour le dynamisme de son édition, qui est plus connu pour le dynamisme de ses auteurs, puisque vous êtes plusieurs d'entre vous sont édités à Nouméa, mais plutôt ici en France, ou plutôt aussi à Tahiti, avec Christian Robert et sa maison d'édition Au Vent des Îles. Alors, nous allons commencer par simplement quelques éléments biographiques qu'on peut retrouver dans un site de référence. Vous nous direz si c'est exact ou pas. Il en Île, qui est le site de référence qui a été créé par Thomas Speer aux États-Unis avec l'université CUNY. C'est un site en français sur les littératures insulaires francophones. Pour votre notice, qui est très longue, je ne vais pas la lire complètement, mais on dit notamment que vous êtes né à Nouméa le 15 décembre 1959, et ça, c'est exact.
Oui, je confirme.
Vous confirmez. Vous avez écrit tôt. On signale que vous avez écrit notamment à 10 ans un premier livre, L'Écureuil, et d'autres titres par la suite. Vous êtes enseignant, professeur dans un lycée professionnel. Vous l'avez été d'abord à Bouraille et actuellement c'est à Nouméa.
À la Vallée du Tir.
À la Vallée du Tir, qui est un quartier important, connu de Nouméa. Vous avez créé L'Herbier de Feu, cette maison d'édition. Vous aviez 39 ans, c'était en 1998. Et vous êtes également président de la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie. Vous avez le souci d'écrire des livres seuls et puis d'écrire des livres en collectif. Oui. C'est ce que vous disiez à une des lectrices intéressées juste à l'entrée, où les livres sont présents. Vous pourrez les signer par la suite. Quintette, donc ce premier roman, comment vous est venue l'idée d'écrire Quintette?
Ah, c'est toujours la question qu'on se pose. Y a-t-il une réponse qui soit véritable? En tout cas, je vais en donner une, je vais donner une version. Comme souvent dans la vie, c'est une rencontre. C'est un faisceau de circonstances. Et là, je rends hommage à un grand absent, Jean-François Samelon, que j'avais rencontré grâce à toi. Parce qu'il se cache là-bas, mais il s'appelle Gérard Lamoureux. Et grâce à lui, on fait de belles rencontres, parce que c'est quand même un des intérêts forts pour nous, auteurs, d'être invités dans des salons, ou des conférences, ou des lieux comme celui-ci. C'est de ne rencontrer nos collègues, que nous connaissons souvent par les textes, mais que nous n'avons pas rencontrés en chair et en os. Et donc, lors de c'était le premier festival, n'est-ce pas, Gérard ?
C'était le premier.
J'ai fait connaissance avec ce monsieur et je ne sais pas, à l'époque, quand j'avais demandé quelques explications sur Jean-François Samelon, pour savoir pour quelles raisons étranges, à chaque rencontre, j'étais mis en duo avec lui, on m'avait dit, ah ben, c'est très simple, c'est le Frédéric Hollaine de La Réunion. Ce qui m'avait un petit peu laissé pantois. Et effectivement, c'était assez bien vu, Gérard, parce qu'on a tout de suite sympathisé. Et ce monsieur, lisant mes textes, notamment mes poèmes, m'a dit, mais pourquoi, bon Dieu, n'écris-tu pas pour Continent Noir? Parce que je suis passé des éditions Grasset chez Jean-Noël Stifano, et il me semble que tu devrais. Je t'incite, je t'invite à. Et donc j'ai écrit la première partie de ce roman et je lui ai donné 4 suites. Donc, première partie, puisque comme tu l'as évoqué, c'est un roman puissamment polyphonique, choral, comme on dit maintenant, avec 5 voix qui s'expriment successivement et qui assument chronologiquement un même récit. D'abord la voix de Maria, qui est mon arrière-grand-mère à la 6e génération. Ensuite la voix d'Henri Heinrich, le Hambourgeois, qui vit en Nouvelle-Calédonie pour une raison qu'en 2015 nous ne connaissons toujours pas. Je donne une hypothèse dans le livre. Ensuite l'histoire d'un instituteur, un jeune Belge né à Namur d'à peine 20 ans, qui va aller se perdre en Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, un petit peu, c'est un des objectifs, une des gageures, un des défis de ce livre, c'est de parler non pas du Dreamtime aborigène, mais bien de parler du Dreamtime mélanésien. Et pour cela, je prends un habitant de Vanuatu qui s'appelle Fideli. Et lui, on ne connaîtra jamais son nom. Parce que la plupart des gens qui sont raflés comme ça, parce qu'on appelait à l'époque les Blackbirders, c'est-à-dire les trafiquants d'esclaves, on ne leur donne jamais leur nom véritable. C'est une autre façon de les aliéner, de les rendre étrangers à eux-mêmes. Et enfin, personnage historique, parce que souvent j'ai pris dans l'histoire réelle ces figures-là. Le premier juge de paix, puisque Fideli sera arrêté par la maréchaussée, mis en prison, convaincu d'avoir voulu assassiner l'instituteur. Et donc il va essayer de faire la lumière sur cette ténébreuse affaire qui lui échappe à bien des titres. Donc 5 voix, mais du début à la fin, avec pas trop d'anamnèse a priori, pour ne pas perdre mon lecteur.
Les deux premières voix, c'est Maria et Heinrich, donc vos aïeux, vous en faites des personnages plutôt positifs. On n'est pas dans un roman colonial, on n'est pas dans le mauvais côté de la colonisation. Mmh. Marie, elle a une empathie pour les gens du pays.
Mais pas forcément les gens du pays, les gens.
Les gens tout court.
Le fait qu'elle soit là, c'est une empathie générale. C'était une dame qui avait donc reçu une bonne éducation, mais qui, privée de ses parents, avait été plus ou moins élevée, en tout cas spirituellement parlant, par une de ses tantes qui habitait à Hambourg. Et les dames de Hambourg, d'une certaine éducation, curieusement, vivaient à l'hôpital. C'est curieux quand même. Le meilleur hôtel de la ville, à tout point de vue, c'était l'hôpital. Donc c'est une dame qui, après avoir passé de nombreuses années en Italie, auprès de son peintre de mari, a vécu une trentaine d'années à l'hôpital, avant que la ville ne brûle en 1842. Et c'est toujours un cataclysme absolu, une grande capitale mondiale qui brûle. Le sait-on. Bon, Lisbonne a été détruite par un tremblement de terre. Londres a brûlé en 1666. Mais Hambourg, qui fut une ville hanséatique, c'est-à-dire une ville avec plusieurs siècles d'indépendance, de grande tolérance philosophique et religieuse, a brûlé pratiquement 60% de la ville a brûlé en 1842. Donc ça a été un choc pour les gens. Donc Marie, elle s'occupe des corps. Ayant été élevée par une dame qui passait son temps à l'hôpital, elle a quelques notions pour les soins. Elle s'occupe des corps, elle trouve que c'est déjà pas mal de faire en sorte que les gens restent vivants. Et puis, mon grand-père, c'est autre chose. Dès l'enfance, j'ai su qu'il ne correspondait pas au schéma colonialiste. On voit le jeune colon plein d'ambition, qui veut recommencer sa vie, devenir riche, acheter des terres à vil prix, tout recommencer, la tabula rasa habituelle. Or, lui, il était très âgé. Pour l'époque, c'était presque 60 ans. On ne devient pas colon à 60 ans. Ça me paraît difficile. Comme il me paraît difficile de demander à un bagnard qui a passé 30 ans au bagne de devenir cultivateur. Ça m'a semblé toujours une imposture. Vous savez que la seule chose dont ont besoin les gens qui sortent de prison, c'est du rhum, des femmes, mais certainement pas cultiver des carottes ou des petits pois. Enfin, c'est ce qui m'avait semblé. Je m'autorise à dire un peu ma vérité dans ce livre. Et donc, toute la question a consisté à essayer de deviner pourquoi ils étaient venus. Et je développe une hypothèse, et j'ai eu la preuve que mon hypothèse était exacte à la fin de mon entreprise littéraire, puisque 2 ou 3 semaines après avoir écrit le livre, par on ne sait quel miracle de Google et d'Internet, je tape quelques mots-clés magiques et j'obtiens la vision absolument extraordinaire, un article de l'époque, la revue des deux mondes, elle existe toujours, qui s'appelle « Une expérience socialiste en Nouvelle-Calédonie ». Et c'est tout ce qu'a fait mon grand-père. Et moi qui pensais avoir écrit une petite histoire calédo-calédonienne, pas du tout. En fait, ça a eu un retentissement national pour dire que, évidemment, que c'était nul, que ça avait échoué, etc. Mais quand même, ça a eu un retentissement à cette époque. Et j'étais pas peu fier et stupéfait de cela.
Son projet, c'était de créer une...
Alors, on peut le dire, c'est très difficile de parler d'un livre sans le déflorer. Hein. Le mieux, c'est qu'un livre arrive virginal sous l'œil du lecteur. Mais oui, peut-on imaginer quelqu'un qui vient à 60 ans se perdre, entre guillemets, en Nouvelle-Calédonie pour créer la première école publique et laïque, non pas de Calédonie, non pas de l'Océanie française, mais de toute la France et de la Navarre. C'est le premier cas de création d'une école sans bonne sœur et sans prêtre. Ça, il y tenait beaucoup. En tant qu'ancien étudiant en théologie, qui avait perdu la foi suite à l'incendie de sa ville, il avait trouvé une autre idéologie, une autre spiritualité, une autre espérance. J'en avais déduit que ça passait par la franc-maçonnerie, effectivement. Il semble que ce soit lui, que ce soit le cas, mais affilié à aucune loge. Donc il a fait venir à ses frais le fameux instituteur dont je parle. Ce qui a créé un petit événement en Calédonie, parce que on avait entendu parler d'un instituteur belge. On savait qu'il s'appelait Monsieur Gustin, mais on ignorait son prénom et on ignorait ce qu'il était devenu après cette expérience. Donc les historiens plus ou moins amateurs, plus ou moins professionnels, sont emparés de cette vie-là et ont tout reconstitué. Cet homme a passé les 30 prochaines années après en Nouvelle-Calédonie, où il a continué à être instituteur jusqu'aux îles Loyauté, etc. Voilà.
Donc c'est Monsieur Gustin.
Monsieur Gustin Jean-Baptiste, qui avait eu tellement honte de s'annoncer comme instituteur, j'ai retrouvé le journal qui annonce sa venue, il se proclame charpentier.
On peut peut-être en venir d'ailleurs à ce premier extrait qui se situe, c'est donc dans la partie 3. Alors Virginal, je ne sais pas qui a lu Quintet, on peut, à part Jean-Noël Schifano qui est votre éditeur et qui l'a quand même lu en tout premier, il est présent, qui a lu Quintet ici? Donc effectivement peu de personnes l'ont lu, donc vous avez un public virginal de ce point de vue, Frédéric.
Oui.
Et donc là c'est une lettre de Heinrich qui va, on va vous écouter, mais qui cherche un instituteur.
Oui, parce qu'à 20 000 km de distance, sans télégramme, sans internet, donc une lettre. Gadji, le 5 août 1862.
Gadji, Nouvelle-Calédonie.
Monsieur, vous trouverez dans ce pli 2 tickets. L'un de train pour rejoindre Brest via Paris, l'autre pour embarquer sur le 3-mâts de Dunkerque à destination de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'une certaine somme pour vos frais. En cas de refus, je vous autorise à utiliser ce billet à ordre comme bon vous semblera. Mais sans doute vais-je trop vite en besogne. Vous ne savez ni qui je suis, ni ce que je souhaite. Tout se résume à ceci, le temps presse, et j'ai besoin de vous. Nous vous avons recherché et trouvé. Un jeune homme sans attache, un maître d'école compétent, une personnalité exemplaire que n'entachent pas les superstitions. Par votre action discrète à Namur, vous avez aussi prouvé que pour vous, donner, vous dévouer sans bruit ni réclame, n'était pas chose vaine. Alors venez, vous accoucherez les esprits, vous trouverez au fond de vous la meilleure part, celle qui seule mérite d'être transmise. Vous partirez de Brest et rallierez Port-de-France par le Cap Horn. Avec des vents favorables, vous devriez être à pied d'œuvre en septembre, à la veille de notre été austral. Nous vous construirons une maison de bois, assez solide pour résister aux cyclones, assez grande
pour accueillir tous les enfants qui attendent ici votre enseignement. Vous hésitez. Pourtant, vous avez le goût du voyage. Avec votre père, vous avez parcouru les canaux d'Europe. Aujourd'hui, vous étouffez à l'ombre de la citadelle. Et chaque nuit, je le sais, vous reprenez en rêve le chemin de l'eau. Ce que je vous propose, naviguer, dépasser les dernières écluses, ne plus entendre dans vos cales le choc monotone des pelles, ne plus sentir ce poids qui s'accumule au fil des jours et vous anesthésie. Maître d'école, soit, et puis après. Que pourriez-vous espérer de ces éternelles réclusions? Répétiteur, ne craignez-vous pas de finir en prison au fond de cette oubliette où toute vie somnole? Bien sûr, vous souffrirez de maladies et de soif nouvelle, des mille qu'il vous faudra endurer pour vous transporter. Mais en passant de l'eau douce à l'eau salée, vous franchirez un seuil, celui qui vous sépare du monde réel, des odeurs qui vous prendront à la gorge, des visions auxquelles vous ne pourriez prétendre au chaud de votre Wallonie. Est-ce bien d'ailleurs le vôtre, ce pays qui dort à son aise, repu dans son étroitesse, tout cet orgueil de faim sommairement satisfaite? Oui. Vous ne verrez plus en hiver les brumes se lever sur la Meuse. Et alors, quittez l'Europe, la barbarie de ses industries, quittez ses charniers, tout le sang qu'elle verse dans sa marche, toute cette puanteur que Goethe a prédite. Vous vous direz que vous avez tout perdu. Vous échouerez. Vous ne comprendrez pas, mais vous le ferez. Car tout en vous est né pour se mouvoir. Nager au large, peut-être regretterez-vous un jour votre décision, mais sans doute moins que si vous étiez resté chez vous avec l'éternel remords de n'avoir pas saisi votre chance.
Alors venez, vous accoucherez les esprits, vous trouverez au fond de vous la meilleure part, celle qui seule mérite d'être transmise. Cette lettre va le convaincre.
Oui, on m'a toujours dit, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Déjà, en soi, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'elle a été proposée comme sujet d'examen en Nouvelle-Calédonie. On m'a dit, on voit, c'est pas tellement littéraire, on sent le vrai dedans. J'aime beaucoup le pas tellement littéraire.
Alors la suite de la lettre.
Alors la suite, c'est qu'il arrive le jeune homme. Lui-même est orphelin. Son père était batelier sur la Sambre, sur la Meuse. En Belgique, on appelle les péniches des mignoles. Quelle différence avec une péniche parisienne? C'est que le nez de la péniche à l'avant est busqué comme ça. Il remonte et il a des décorations sur les côtés. Et c'est vrai qu'il a parcouru avec son père tous les canaux d'Europe. Donc c'est un navigateur. Mais un navigateur d'eau douce, il faut passer à la dimension salée de l'océan. C'est une autre paire de manches. Et effectivement, je retrace tout son chemin depuis sa Belgique natale, en diligence, en patache, et ensuite toute l'aventure qui va le mener jusqu'à Brest, embarqué sur le bateau. Finalement, ils ne vont pas pouvoir passer le Cap Horn, ils vont passer par le Cap de Bonne-Espérance jusqu'en Tasmanie. Un long voyage de plus de 150 jours.
Heinrich lui propose une aventure formidable.
Oui, parce qu'en fait, il choisit d'y aller sans avoir beaucoup d'éléments et joint à la lettre une petite aquarelle de Maria où il lui montre un petit peu sa, comment pourrait-on dire, sa case-école. À l'époque, on ne construisait pas autre chose en Nouvelle-Calédonie. Donc une case ronde à la manière kanak qui était la future école du maître. Vous voyez comme quoi ils avaient anticipé.
Et dans cette école, quels étaient les élèves?
Ah, bonne question, parce que en cela, c'est extraordinaire, parce que je vous rappelle quand même que c'est 1862, donc 6 Européens, mais pas du tout des Français, souvent des Allemands, des Anglais, des Irlandais, qui ne pratiquent pas le français à la maison, 6 Kanaks, à la grande insistance du gouverneur Guillain, un homme politique sur lequel on a jeté l'opprobre,
qui est condamné par tous, mais qui avait des vues très en avance pour son, sur son temps, et à son temps. Et puis un Chinois, parce que le maître a piqué une crise en arrivant, c'est-à-dire qu'on lui a déployé le tapis rouge, il y avait un buffet, il y avait un discours de bienvenue, et le maître, trivialement parlant, faisait la gueule. Et donc quelqu'un osait lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous chiffonne ?» Oui, en effet, parce que j'ai croisé, lorsque je suis venu à pied, quelqu'un qui gardait les chèvres. Or, il se trouve que ce garçonnet n'est pas à l'école. Il me dit « Non, monsieur l'instituteur, on vous rassure, tout le monde est là, hein. Tous les garçons sont là. » Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'était pas question, même pour le plus évolué des hommes, de mettre les filles à l'école. Donc la question ne se posait pas. Et on lui dit, mais non, on ne voit pas de qui vous parlez. Mais d'ici, il y a un petit garçon qui dit, ah, mais c'est un Chinois. Et oui, et même les Chinois auront le droit d'aller à l'école désormais. Ce qui était pour eux une révolution mentale absolument extraordinaire. Car James Paddon, qui était en lien avec un aventurier anglais qui était présent en face de Nouméa, à Nouville, avant même la présence des Français, avait... à l'occasion de ses voyages à Canton, en Chine, adopter un enfant qu'il a appelé Song, qui sera l'ancêtre d'une grande famille en Nouvelle-Calédonie, les Song. Ils ne veulent pas d'ailleurs en entendre parler, je ne sais pas en quoi ça les gêne, de descendre d'un petit garçon chinois. Parce que moi, je connais l'histoire, la légende, qui veut que ce petit enfant chinois ait agrippé la ceinture de James Paddon, comme ça, et n'ait jamais voulu s'en détacher. C'est comme ça qu'il a été emmené en Nouvelle-Calédonie.
On n'en est pas encore à l'histoire du bagne et de ce qu'a véhiculé...
Mais non, parce que je tenais à faire un roman qui ne parle pas du bagne. Bon sang de bonsoir. Bien sûr que la Calédonie a été un camp de concentration. Moi, je le dis cruellement. Oui, il y a eu un camp de concentration en Calédonie. Il y en a eu deux. Ça s'appelait le camp brun. Et ensuite, quand les Japonais ont été raflés, après Pearl Harbor, il y a eu un deuxième camp de concentration. Et comme les Français font les choses en grand, ça a été dans une ancienne cathédrale qui est devenue un théâtre. Excusez le destin de ce lieu. Qui s'est animé à cela?
Est-ce que dans votre entreprise littéraire, il y avait une volonté aussi d'entreprendre une contre-histoire?
Oui. Parce que moi, j'ai horreur des trous dans le réel. La nature littéraire a horreur du vide. Moi, ça m'interpelle, comme on dit vulgairement, que personne ne parle des 10 premières années de la colonisation en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Serait-ce que le bagne soit une telle atrocité, un tel juggernaut qui écrase tout le reste? À mon avis, c'est bien le cas, oui. Ça a représenté une telle somme de misère et d'atrocité, le bagne, qu'on en oublie ce qui a existé avant et après. Qu'en est-il des hommes, des quelques hommes qui sont venus? Puisqu'il ne faut pas considérer la colonisation avant l'arrivée des nordistes en Nouvelle-Calédonie comme des choses de grande ampleur. Le gouvernement français aurait voulu la présence de 500 familles. Et il y en a 15 qui sont arrivées, dont les deux tiers qui sont repartis. C'est vous dire les petits chiffres que ça représente, les premiers colons libres en Nouvelle-Calédonie, ceux qu'on a appelés les colons Paddon, qui se sont installés dans quelques collines au lieu dit Gadji, près d'un village qui s'appelle maintenant Païta.
Heinrich, lui, il était à l'avant-garde de l'esprit de ces
oui. Noms. Oui, parce que c'est pas un cultivateur. Il pense plus à acheter des souliers de prix à sa femme. Non, parce que Maria ayant échappé à la mort dans l'incendie de Hambourg, ayant fui à la plus grande vitesse possible de ses petits pieds et de petite fille à l'époque, a perdu ses chaussures. Et donc, c'est devenu un leitmotiv, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui lui reste de cette tragédie. C'est un petit peu Cendrillon qui a perdu ses chaussures. Elle veut toujours retrouver les chaussures de son enfance, des chaussures en suédine. Et c'est vrai quand Heinrich fait en sorte que ce rêve-là se réalise. Et du coup, elle a plus ou moins conjugué sa vie au rêve de son mari. Mais n'est-ce pas ça l'amour?
Comment va surgir la figure de Fidélie dans cette entreprise?
Alors, curieusement, dès la troisième page, puisqu'on voit là un jeune homme qui... je ne vais pas raconter l'histoire, mais enfin, Maria se permet des choses un petit peu bizarre. Maria est amenée à se déplacer lors des grandes épidémies. Alors Maria, ce sont des, je donne les détails quand même, ce sont des épidémies de dysenterie. Vous savez bien, mesdames, comment on soigne les nourrissons atteints de dysenterie. On a un ancien remède qui s'appelle l'élixir parégorique. Or, Maria avait 50 centilitres d'élixir parégorique pour toute la Nouvelle-Calédonie. Elle se baladait avec sa petite fiole comme ça. Donc, enfant, j'ai entendu toujours mon père parler de cette femme qui quittait son domicile conjugal et qui allait de jour comme de nuit sur sa jument, guidée par un jeune canac, accoucher les femmes jusqu'à Tomo, ça veut dire à plus de 60 km de chez elle, toute seule, et ne rentrant que 1, 2, 3, 4 jours, une semaine après, son grand tablier d'infirmière absolument taché de sang. C'est curieux que la mémoire des femmes, y compris des femmes un petit peu héroïnes comme ça, perdure à travers les générations. Et enfin, je m'étais dit, mais il y a là quelque chose quand même. Et Maria, donc, va être amenée à accomplir un acte que désapprouve sa communauté, mais que le peuple kanak, je le dis, je souligne, va approuver. Parce qu'en Calédonie, il y a un phénomène un peu magique. Vous croyez être seul en un lieu, il y a toujours des yeux qui vous observent. Il y a toujours... vous croyez que vous êtes là, au milieu de rien, de nulle part, et en fait, il y a toujours un regard humain ou un regard spirituel qui pèse sur vous. Et cette dame fut observée à la loupe pendant des semaines, des mois, des années. Donc, ils savaient à qui ils avaient affaire. Et donc, ils lui ont donné un prénom coutumier. Je le dis, ça me permet de parler un petit peu kanak, de faire mon malin. Donc, en langue adieu, c'est un mot, c'est kadamin. Kadamin, c'est le Martin Pêcheur. J'ai trouvé ça dans certains textes. Kadamin, c'est par définition l'oiseau qui ne saurait mourir. Le piaf qui ne peut pas mourir. Parce qu'à chaque fois qu'on le vise avec une pierre, il esquive, n'est-ce pas? Et ma grand-mère se déplaçait à travers les épidémies sans être atteinte par rien. Elle survivra 45 ans à la mort de son mari.
Que signifie Kadamé, tu sais, ce nom étrange qu'ils ont donné à ma femme? J'ai envie de lui répondre que je l'ignore et que je m'en fiche. Mais par égard pour Maria, je dis dans la langue des Wailou, Kadamé, c'est le martin pêcheur, le kingfisher, un oiseau qui vole toujours en couple. Ça, c'est page 226.
Donc, bien vu.
Vous ne le donnez pas tout de suite, la
non.
Signification. Et Fidélie, alors qui est-il?
Alors au début, effectivement, on le prend pour un interprète. À l'époque, on ne disait pas un interprète, on disait un truchement. Voilà, je ressuscite des mots de temps en temps. On me dit, ah, mais c'est des mots compliqués. Mais non, ce sont des mots qui ont disparu, ils ont le droit de réapparaître à travers un livre. C'est beau, non, un truchement?
C'est beaucoup, au passage, on peut dire, c'est beaucoup dans le livre de Jean-Christophe Rupfin, Rouge Brésil,
oui. Truchement. Et donc, il a une trajectoire absolument... C'est l'île au trésor, c'est un petit peu... une histoire de pirates. Les pirates en question, j'en ai parlé tout à l'heure, sont les Blackbirders, car on appelait les hommes noirs du Pacifique, d'une métaphore péjorative, Blackbird, oiseau noir. Ça désignait en premier lieu les aborigènes d'Australie, et ensuite, de manière systématique, tous les océaniens. Lorsque j'ai présenté cette révélation en 2014 au Salon du Livre de Paris, lors d'une intervention, une dame m'a dit « Mais je ne comprends pas très bien, il y avait une traite... dans le Pacifique, mais j'ai dit, mais madame, dans tout océan, aussi bien l'Atlantique que l'océan Indien, que même la mer Méditerranée, ou qu'à fortiori le Pacifique, il y a eu des traites, même si elles sont puissamment ignorées. Elle me disait, mais je ne comprends pas, on a importé des Noirs d'Afrique dans le Pacifique pour... Non, j'ai dit, non, vous ne comprenez pas, il va falloir vous remettre à niveau. Et effectivement, pendant pratiquement 80 ans, des capitaines anglais ont attaqué des petites îles. Pourquoi? Parce que c'était le bien le plus précieux. On pouvait trafiquer le bois de santal, on pouvait trafiquer la bêche de mer, mais rien ne rapportait autant qu'un homme physiquement en bonne santé. 50 dollars or. Une véritable fortune. Il suffisait, entre guillemets, d'une cargaison de 200-300 personnes pour être riche à vie.
sans s'embêter avec du bois ou à faire cuire des petits échinodermes, des genres de vers marins. Et ça allait, la traite allait se déployer soit vers le Pérou, dans les mines du Pérou, et ça c'était plutôt des Polynésiens, soit vers les plantations australiennes, et ça c'était plutôt des Mélanésiens. Alors aucun capitaine indigne de ce nom n'est exclu de la traite négrière. Tous l'ont pratiqué à plus ou moins grande échelle. Qui a représenté un tel capital, même ceux qui avaient, entre guillemets, certains scrupules, pratiquaient quand même, y compris James Paddon, qui est un monument en Nouvelle-Calédonie. Donc je me permets de dire, James Paddon a bâti sa fortune sur la traite négrière, et d'ailleurs je le dis aussi dans mon livre, mais c'est tellement un iceberg énorme que je ne développe pas. On avait en Calédonie comme capitaine de port et agent de colonisation le plus grand négrier français qui ait jamais existé, celui dont, qui a écrit ses mémoires, qui ont été édités par Jean-Pierre Sicre à l'époque, et qui a étudié dans toutes les universités américaines. Vous saurez un petit peu son histoire en lisant le livre. Non mais, moi j'ai eu des professeurs d'histoire formidables au lycée, notamment un qui a passé sa vie à justement faire ce que je fais au niveau littéraire, c'est-à-dire boucher les trous dans la trame du réel. Et il avait mis une petite notule, donc en bas de page, un tel connu comme le plus grand négrier français, arrêté par l'État français, arrêté par le gouvernement américain. Et on trouve encore, c'est édité, hein, c'est disponible, ses mémoires. Alors c'est un jeu de mots, c'est Captain Canote, qui veut dire, comme vous savez, le canot, on ne dit jamais canot. Si vous voulez passer pour un imbécile sur un navire, vous dites, il faut descendre le canot. Non, on ne dit pas ça. Il faut descendre le canot. Évidemment, canot en anglais, un petit jeu de mots.
Frédéric, ça c'était un professeur au collège ou au lycée qui vous a marqué, qui vous a transmis cette contre-histoire aussi, puisque oui. J'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas enseigné. Est-ce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, l'histoire du blackbirding est enseignée ?
Non, pas du tout. Ah si, il y a quand même une stèle à Nouméa, minuscule et tout rouillée. Pas dans le cadre de l'histoire du blackbirding en Calédonie, dans le cadre général de la journée pour commémorer donc, l'abolition de l'esclavage. Pas en mettant le focus sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Sachant que en Nouvelle-Calédonie, enfin ça c'est ma théorie, semble-t-il que comme les Kanaks savaient mieux se défendre que les habitants de l'archipel de Vanuatu, il y a eu d'autres façons de procéder, par la diplomatie. Par exemple, il y a eu des Kanaks à Lifou, les capitaines arrivaient, s'entretenaient avec les chefs, et à partir de là, sur la base d'un drôle de volontariat, montaient de leur propre chef sur les bateaux, mais sans savoir qu'il ne reviendrait pas. Et du coup, même aujourd'hui, il y a une communauté Kanak en Australie, quelque chose qui est puissamment ignoré jusqu'en Nouvelle-Calédonie, s'appelle les Kanaka, ou les Kanakas. Sachant que les Australiens ont fait pire que les Blackbirdés, à partir du moment où, à la troisième, quatrième génération, ils avaient réussi à racheter leur liberté, où ils avaient réussi socialement, où ils étaient installés en Australie, ils ont pris une loi fédérale comme quoi ils devaient tous partir jusqu'au dernier en tant que travailleurs immigrés. Ce qui se passe actuellement en Corée du Sud, hein, il faut le savoir. Tous les travailleurs immigrés, même ceux qui sont là depuis 3 ou 4 générations, sont obligés de partir. Mais où ils ont été absolument cruels avec eux, c'est qu'ils ne leur ont pas fourni de billets de retour. Ils étaient censés prendre le premier bateau qui déradait, qui s'en allait vers le large. Autrement dit, tous ces anciens Kanaks ont été saupoudrés sur l'ensemble du Pacifique, sans jamais, pour certains, pouvoir retrouver leur terre d'origine. Mais les Australiens le reconnaissent, pas mea culpa, mais ils le disent quand même.
Alors, l'histoire est incarnée par ces trois premières figures, disons Maria, Heinrich et Fidelie, et puis Gustin qui va venir.
Ah oui, j'y tiens à Gustin parce que c'est un énorme contraste dans ce livre. Enfin, quelqu'un qui croit en la vie, qui est gay, qui est optimiste, qui est plein d'allant, qui veut faire des choses, alors que bon, Maria, elle a vu tellement d'horreurs, elle en est marquée, à jamais.
Toutes les photos d'elle que j'ai, c'est une espèce de profil d'aigle, comme ça. On dirait une impératrice inca, avec la dignité qui va avec, comme ça. Le quant à soi qui va avec. Oui, je tiens beaucoup à mon personnage de Gustin. Quel optimisme. C'est notre Candide dans l'histoire, mais peut-être pas si Candide que ça. Pauvre homme.
Et vous, Frédéric Hollen, quand vous êtes en position de professeur?
Oui. Bon, ça va s'arrêter, cette histoire-là, oui.
Ça va s'arrêter.
Oui. Pourquoi? Quelle est la question?
Vous êtes un peu Gustin, un peu une Reich, un peu...
Alors, oui, Madame Beau, c'est évident qu'on met un peu de soi dans chacun de ses personnages, c'est un truisme. Des fois, même sans y penser. Il faut bien que la vie qui vous infuse passe dans les petits mots que vous alignez. Ou alors, ça n'a aucun sens.
Surtout, c'est que la situation en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui n'est pas celle de 1862.
Non, et cependant, il y a des points communs. Ouvrir les yeux, ne pas réfléchir en termes de dualisme, de catégorie. Savoir que l'image que les gens projettent, c'est pas forcément l'image réelle. Préférer le contact du terrain à l'idéalisme ou à l'idéologie. Tout ça, c'est des leçons qui restent valables. S'agit-il même de leçons? Ne s'agit-il pas de sagesse au pluriel?
Alors, on peut peut-être revenir à Fidélie parce oui. que les personnages qui incarnent cette histoire ou cette contre-histoire, en tout cas, c'est une histoire que vous retisser à travers ce projet littéraire. Chacun de ces personnages a sa langue aussi, et sa langue littéraire. Et
ah oui, aussi. Ça c'est un... Autant Maria est obsédée par les chaussures en Suédine, autant moi je suis obsédé par les langues. Parce qu'il me semble que la véritable richesse du monde, c'est évidemment les gens, le sang qui coule dans nos veines, mais que c'est aussi nos langues. Et j'essaye comme ça, à travers mes livres, de montrer cette dimension-là, même si ça en gêne certains. C'est vrai qu'on a réfléchi avec mon éditeur, traduirons-nous ou n'allons-nous pas traduire les phrases en anglais? D'ailleurs, c'est un anglais bizarre. C'est un anglais moitié du 19e. C'est pas l'anglais des Rolling Stones ou de Eminem, je vous le confirme. C'est un anglais chantant, c'est un anglais poétique, même pour dire des broutilles. Une phrase, par exemple, qui commence par « où il n'y a que des W ». Alors, c'est subliminal, mais vous verrez quand vous lirez le livre. Alors, moi, je me suis basé sur les mémoires, en fait, les fausses mémoires, parce que ça apparaît sous une dimension romanesque, du consul américain à Fidji en 1845. Telle était ma source principale d'information, parce que je n'ai trouvé nulle part de livres, ni en anglais, ni en français, ni en allemand, qui parlent du blackbirding. Et comme je le dis, je me plais à le rappeler souvent, sur les 128 millions d'ouvrages des bases de données européennes, il n'y a que deux livres sur 128 millions qui parlent du blackbirding dans le Pacifique. Laissez-moi vous dire, les yeux dans les yeux, que c'est une honte. Et je ne suis pas peu fier, à ma manière, de ressusciter ou de revivifier la chose pour ce que j'en sais, pour ce que j'en devine à travers ce livre.
Alors, c'est intéressant que le Festival des Outre-mer inscrive aussi la traite dans le Pacifique à travers ces rencontres littéraires. On a plus l'habitude avec le 10 mai et ses commémorations de parler des traites transatlantiques. Alors, on ne va pas lire le livre, mais on va quand même en lire un autre extrait. Et justement, c'est Fidélie qui va s'exprimer. C'est page 157 pour ceux qui ont le livre ici. Je vous ai servi un peu d'eau, si vous le souhaitez.
Merci. Donc, en fait, Fidélie vient d'être raflé et il se trouve dans le bateau des négriers. Ils m'ont attaché, bien sûr, pieds, poings liés, aussi étroitement qu'un porc qu'on va sacrifier, un régime de faveur pour les fortes têtes. J'essaie quand même. Je demande à l'eau de se lever. Je la supplie de briser le bateau, de nous envoyer par le fond, car tout vaut mieux que le sort qu'il nous réserve. L'eau ne m'écoute pas. Brise favorable, beau temps insolent, les rêves font ce qu'ils veulent maintenant. Le monde est muet. Plus de whale bullock. La seule baleine que je connaisse désormais,
c'est celle qui nous a avalé, le navire des Blancs. Un ventre où nous sommes entassés, faisceaux de poutres arqués comme des côtes. Utérus où nous sommes suspendus à des crochets de fer, des menottes. Qui pourrait dormir dans cette puanteur, dans cette étuve qui nous cuit tout le jour, avec toute cette masse humaine alignée qui se tortille, s'agglutine, me rappelle sans cesse où je suis, me ramène à ma fierté blessée, à ces flaques d'urine sous nos cuisses. Je suis 40 et je suis seul. Un animal qui chante, chiale, un son bas, profond, qui entre en résonance avec les crânes, cherche le point de rupture, fait vibrer un muscle inconnu. Certains marins craquent, ils nous menacent du fouet. Alors, ce cri, nous l'enfouissons dans notre poitrine. Peut-être repréciser le lien qu'a Fidèle. Alors, il y a une règle qui régit les rapports humains en Océanie. On appelle ça custom en anglais, la coutume en français. Et Fidèle, dans sa tribu d'origine, il a un statut particulier. Il n'a pas le droit de porter des armes. Il n'a pas le droit de chasser. Il n'a pas le droit de tuer des animaux. Et quand on a un problème, on s'adresse toujours à lui. Parce que peut-être va-t-il demander à ses ancêtres de lui envoyer un rêve et qu'à travers ce rêve, la communauté va avoir la solution. Alors Fidèle, c'est un monstre à bien des titres. Il y a le côté évident, il y a le côté patent, il y a le côté apocryphe, caché, mystérieux, énigmatique. Pour ceux qui ont vu le film Elephant Man, vous savez que certains corps humains naissent étrangement allongés. Le crâne de Fidèle, c'est un crâne d'alien. Alors, il cache ça sous sa masse capillaire, mais dès sa naissance, quand les os du crâne nourrisson sont encore un petit peu ductiles, qu'on peut les étirer, son crâne a été entortillé avec des fibres de bananier et désormais son crâne s'étend vers l'arrière, en fuseau, en pain de sucre. On m'a confirmé ce qu'on appelle les têtes pointues à Vanuatu existent toujours. Et grande est la stupéfaction des gens lorsque j'ai présenté le livre à Port Vila, la capitale de Vanuatu, de savoir que j'évoque ce fait. On va simplifier à la manière européenne en disant qu'il s'agit de voyants, de rêveurs. Alors ce sont des rêves qui prennent parfois des dimensions tout à fait concrètes. Par exemple, il y a un esprit totem en Océanie, c'est-à-dire chaque clan, chaque famille est relié à un animal. Alors nous, les visages pâles, on voit ces animaux comme des espèces de dieux, de divinités qui flottent dans un éther, comme ça, quelque part. En fait, non. Il m'a été donné de voir à Vanuatu, alors ce que j'appelle le whale, baleine, bullock, bœuf. Le bœuf baleine, qu'est-ce que c'est le bœuf baleine? C'est ce qu'on appelle le dugong. Ce qu'on nomme en Nouvelle-Calédonie la vache marine. Il arrive souvent qu'un enfant mâle naisse et qu'en même temps la mère dugong mette bas un petit dugong. Donc ces deux vies seront désormais liées. Je sais que les Indiens d'Amazonie, par rapport aux dauphins roses de l'Amazonie, ont à peu près le même lien empathique. Et donc, son lien à lui, c'est que il ne devine rien des gens, mais qu'à travers les rêves qui lui sont envoyés, il sait des choses qu'il n'est pas censé savoir. Et que ce lien empathique qui le lie à son frère dugong, il l'a aussi dans une moindre mesure avec les dauphins et aussi avec les baleines, même s'il a beaucoup de mal à parler aux baleines.
Et pourquoi avoir choisi Fidèle et ses accointances vanuatuaises ou...
Alors on m'a dit, oui, pourquoi n'avoir pas pris de fait un personnage canin? Parce que les Blackbirders n'ont pas œuvré en Nouvelle-Calédonie historiquement. Et peut-être qu'il était moins délicat pour moi de faire revivre un personnage mélanésien, certes, mais non kanak, très concrètement, oui.
Et je vous demandais tout à l'heure si cette histoire était enseignée aujourd'hui, elle ne l'est pas.
Mais non seulement elle n'est pas enseignée, mais elle est niée. Vous tenez ça d'où ? Parce que vous savez que la recherche historique, ça consiste à compiler, c'est la définition même de l'histoire, des documents écrits. Quels documents écrits ? Les journaux des capitaines ? Seraient-ils assez bêtes pour consigner leur crime ? Si, il y en a un qui s'appelle le capitaine Cagnotte, mais c'est un cas à part. Je vous invite à lire ses mémoires, parce qu'un homme sans scrupules à ce point, est-ce que ça existe ? Oui, tout à fait.
Mais est-ce qu'aujourd'hui l'histoire est réconciliée ? Est-ce qu'il y a une histoire globale qui tend ?
Non, parce qu'il y a plusieurs mondes. C'est tellement facile pour un géographe. Et tout là-haut, la Micronésie, il y a tellement de bombes nucléaires, de dizaines de bombes nucléaires qui ont explosé, ce que je sache, 112. Alors on rigole, hein, bikini, qu'est-ce que ça veut dire ? Des micropopulations, des micro-mondes, des microcosmes, ben, ça peut être un seul, c'est tout aussi valable que 10 millions dans l'absolu. Donc c'est vrai que le musée des arts premiers, je me rappelle lorsqu'ils ont ouvert, premier appel au public, c'est « Avez-vous des objets micronésiens chez vous ?» Nous, dans ce grand musée, un des plus grands musées du monde, sur la question, on n'en a aucun. Ah ben oui, évidemment. Donc c'est cette manique à l'intelligence de classer la Micronésie, la Polynésie, la Mélanésie, alors que vous assurez, les peuples anciens n'en avaient rien à faire de nos frontières imaginaires. Canaques, Polynésiens faisaient des centaines, des milliers de kilomètres à bord de leurs pirogues pour aller voir les archipels voisins, peut-être même plus que de nos jours, puisque la vision qu'on a aujourd'hui du Canaque, du Mélanésien, c'est plus l'image d'un paysan, d'un homme de la terre et du terroir. Sait-on jamais qu'il a vécu ce que les Wallisiens appellent le tavaka, c'est-à-dire l'épopée qui consiste à aller au-delà de l'horizon. Quand il y a un phénomène de surpopulation, quand il y a un phénomène de rejet, de guerre, on prend la pirogue et on s'en va au loin. Il faut une sacrée espérance pour arriver à relever ce défi-là.
Frédéric, un dernier extrait, toujours avec Fidélie.
Alors Fidélie est sauvé, je ne vous dirai pas comment. Et il arrive dans une station. Alors une station, ce n'est pas une station de métro. En Calédonie, ça désigne une grande ferme d'élevage extensif. À cette époque, une station, c'est ce qu'on appelle en anglais un « general store », c'est-à-dire l'équivalent des PX américains pendant la Seconde Guerre mondiale, un magasin où on trouve absolument de tout. Et le concept même de magasin lui est absolument étranger, donc il va en parler à travers cet extrait. Et plus encore, il découvre la lecture et il découvre surtout l'écriture. Ah oui, le catalogue, l'équivalent du catalogue de la Redoute, ça lui plaît beaucoup. La femme s'appelle Naïtani. Elle m'a donné une case à l'écart. On me laisse tranquille. Ici, beaucoup d'hommes blancs débarquent. Il y a des chiens, de l'alcool, des outils, des cartes et des gens qui savent s'en servir. Tout ce qu'un marin désire, ils l'ont. Ils disposent d'une grande hutte pour ça. On entre, on dit ce que l'on veut, on explique avec des gestes, et ensuite, on vous apporte ce que vous avez demandé. De la nourriture que vous n'avez pas cultivée, des poissons que vous n'avez pas pêchés, de l'eau brûlante, du sel. Et si vous n'avez pas de quoi payer avec ces petites médailles grises où il y a toujours le même dessin, dessus et dessous, on vous fait crédit. Vous promettez de leur donner ce que vous n'avez pas encore, ce que vous n'aurez peut-être jamais. Dans leur langue, la pièce magique s'appelle un store. Parfois, je vais les voir, moi aussi. Naïtani leur a bien précisé que nous, les nouveaux, nous avions le droit de choisir tout ce qui nous ferait plaisir. Un couteau, un briquet, des pioches, des boutures d'ignames, tout. Moi, je ne sais pas quoi prendre, car ici, rien n'égale en beauté les rêves. Rien ne rend plus heureux. Pour m'aider, ils me montrent des choses qui n'existent pas, etchings, des gravures. Il y en a vraiment beaucoup. Ils les rangent sur des franges. Une fois, j'ai essayé. J'ai posé le doigt sur une image et 15 jours plus tard, l'objet est arrivé. Ça a la forme d'une flèche, mais
ça ne fait pas couler le sang. Cette flèche-là s'émousse vite. Il faut la retailler sans cesse. Pour que je m'exerce, Naïtani m'a offert des franges toutes blanches. Avec la pointe, je grave dessus ce dont je me souviens. Les gens, les choses, le Waibulu, Panchi Billy. D'abord comme sur les pièces de monnaie, avec des formes qui leur ressemblent, des formes que même mes frères pourraient reconnaître. Et puis, je passe aux petits traits. Parce qu'ils aiment bien tout garder, les Blancs ont appris au son de nos bouches à se poser sur une page, à rester là sans bouger, à attendre. Un jour, quelqu'un pose son doigt dessus et ils reviennent, tous. Ils reviennent. On les entend dans sa tête. C'est ainsi que les Blancs rêvent, qu'ils parlent au monde.
Très beau. Il a le beau rôle, Fidèle.
Oui, c'est un personnage hors norme, parce que lui-même ne sait pas qui il est au début de son récit. Alors, Christian, je relève quand même ce que tu as dit tout à l'heure, ou alors j'ai une sacrée longévité. C'est vrai que mon ancêtre est arrivé 100 ans avant ma naissance, mais il ne s'agit pas d'une autobiographie. Hein, je te confirme la chose. Oui, Fidèle ne peut survivre que dans la mesure où il a une espèce de trou dans sa mémoire. Fidèle n'est né de personne, a priori, et ne vient de personne. Mais d'où vient-il, bon Dieu? Donc ça, il va apprendre à le découvrir, mais très très tard, ce sera révélé dans le récit. Parce que ce n'est pas banal comme réponse. Et Vanuatu, on m'a confirmé cette possibilité. Puisque en réalité, le fait d'étirer le crâne en arrière de tous ces nouveau-nés, a priori, ça allonge extraordinairement leur durée de vie. Alors, peut-être pas autant qu'un patriarche biblique, mais presque.
Et puis, on disait cinq voix, cinq figures.
Ah oui, alors...
Ce roman ne serait pas qu'un texte s'il n'y avait pas
parce que
capitaine de Rieux.
Oui, il faut quand même un militaire dans cette histoire, il faut quand même un haut fonctionnaire, qu'on revienne à des choses qu'on connaisse.
Un peu d'ordre.
Alors tout le monde se fiche de lui, ce fameux capitaine de Rieux, parce qu'il appartient à un régiment qui a sauvé la mise à l'armée anglaise lors de la guerre de Crimée. Et donc il porte, c'est pas banal, en Nouvelle-Calédonie, dans un endroit où il n'y a absolument aucun cheval, des éperons d'or. Et évidemment, à chaque pas, ça sonne, cling, cling, on dirait un cow-boy. Et sauf que ce cavalier-là n'a pas de monture. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller cueillir la vérité là où peut-être il pourrait en extraire une bribe, au moins une bribe, puisque le gouverneur Guilin le somme de faire la lumière sur cette affaire. Et on est pratiquement sûr que Fidèle a commis à tout le moins un impair, qu'il a attenté à la vie de l'instituteur, mais il faut enquêter. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que Fidèle écrit son témoignage. Il n'y aura aucun moment confrontation directe entre le capitaine de Rieux et Fidèle, sauf vers la fin. Mais c'est une scène... Alors je vous le dis quand même, c'est pas d'effleurer le livre que de... J'ai horreur des fins. F-I-N, F-A-I-M-S, tout ce que vous voulez. Donc je fais souvent des fausses fins. Donc là, dans ce livre, vous aurez trois fausses fins. Et une vraie fin. Puisque, évidemment, comme les Trois Mousquetaires, l'ouvrage s'appelant Quintette, évidemment, il y aura. En fait, c'est un sextette. Il y aura un sixième personnage qui va apparaître. Et en fait, c'est la même scène qui sera vue différemment suivant le personnage qui l'a vécu, suivant le personnage qui la raconte. Et cependant, Fidèle est immobile. Il ne dit pratiquement rien. Car il est dans un lit d'hôpital et tout le monde vient à lui à ce moment-là. J'essaie de vous mettre l'eau à la bouche pour dire arrivons à la fin du livre et voyons de quoi il s'agit. C'est un petit peu comme dans Alexandre Dumas, toute proportion gardée, quand Alexandre Dumas écrit 20 ans après. Donc 20 ans après, le sixième personnage arrive et dit en fait, c'est moi qui sais et je vais vous dire ce qui est réellement arrivé.
Avez-vous des questions ?
Ah, c'est gentil.
Oui, Gisèle Bourquin.
Certes, on a envie de dire, je laissais un peu la poésie de Frédéric, mais il nous a très très bien donné mis l'eau à la bouche, et ce qui me plaît beaucoup, c'est cette façon de voir la Calédonie que je connais un peu, et là je découvre vraiment, et je t'en remercie, donc je vais essayer de dire très vite. Je voulais juste dire qu'en Afrique, il y a en République démocratique du Congo une tribu où les Mambétous, où aussi on allonge très fort le crâne des bébés, mais maintenant j'irai chercher, savoir pourquoi. Merci.
Alors c'est un invariant des sociétés anciennes que cette déformation crânienne. On la trouve sur les pyramides aztèques. Pratiquement tous les patriciens aztèques passaient leur vie à se déformer le corps de toutes les façons possibles et imaginables. C'était bien au-delà de nos tatouages ou de nos piercings actuels. Et on a toujours pensé que le style du graphisme, c'était un style qui consistait à étirer les personnages. En fait, ils étaient vraiment comme ça. Ils avaient vraiment le crâne en pain de sucre. C'était le canon suprême de la beauté pour eux. Par contre, je ne vous dis pas à quel point le cerveau peut être comprimé, hein.
Moi, j'ai une question sur le lien après, justement, 20 ans après. Ce livre, à la fois, évidemment, se clôt sur lui-même, mais on entend bien qu'il a sans doute rempli des creux, ces creux dont tu parlais, Frédéric, mais en même temps, il en a ouvert d'autres. Et voilà, j'aimerais savoir un petit peu sur quoi porte le travail aujourd'hui et comment on va pouvoir continuer l'histoire. En tout cas, explorer aussi d'autres manques ou d'autres blancs d'histoire.
Ah oui, mais c'est très humain, c'est très compréhensible. L'enfant ou l'adulte, qui c'est la même chose, qui dit « et puis après ». Oui, mais quand est-ce qu'on aura la suite? Peut-être pas, justement.
Je ne
suis pas la suite. Ah oui, non, mais bon. C'est vrai que ça ouvre des abîmes et la littérature a besoin de ces vides-là aussi pour fonctionner. Je crois que c'est aussi, on croit combler une lacune, mais en fait on crée aussi des manques, une aspiration. Moi je trouve qu'un livre, faut que ce soit comme de l'emmental français, faut qu'il y ait beaucoup de trous pour que le lecteur puisse s'y glisser et s'y sente à l'aise. Pas du tout l'emmental suisse, hein, il n'y a aucun trou. Mais il s'en vante d'ailleurs.
On s'y sent très à l'aise, on apprend beaucoup de choses. C'est un roman qui a eu un très bel accueil.
En Nouvelle-Calédonie, oui.
J'allais dire ici en France, puisque quand on est à Nouméa, on parle de la France. Les critiques ont été élogieuses, et en Nouvelle-Calédonie également.
Oui.
À Port-Vila également.
Oui.
Est-ce que notamment vous. Je disais, vous avez aussi une part de votre œuvre qui est inscrite dans un collectif. Est-ce que les écrivains calédoniens, chacun à leur manière, chacun à sa manière, va dans ce sillon d'incarner par des personnages des trous de l'histoire qui n'est pas complète, qui n'est pas assumée complètement aujourd'hui, dans cette Nouvelle-Calédonie qui cherche une voie à travers cette expression qui est nous. Qui est persistante de destin commun.
Peut-être. J'essaye de chercher quelqu'un qui est allé prendre dans l'histoire. Il y a de très bons romanciers en Nouvelle-Calédonie, mais ils ne sont pas allés forcément chercher dans l'espace-temps connu ou inconnu, ancien, des personnages. Je pense à Jean-Marie Crenier. Je pense à un roman qui s'appelle Négro Pau Rive Gauche de Géry de Latière. Il ne me vient pas spontanément à l'esprit Catherine Régent qui avait écrit un roman qui se passait au temps de la déportation politique en Nouvelle-Calédonie. Non, je crois que notre vivier d'histoire est surtout utilisé par d'autres. Et là, je vais le désigner honteusement à la vindicte populaire. Il s'appelle Didier Denens. Et pendant des années, il est venu en Nouvelle-Calédonie. Et il s'en est inspiré pour 4 ou 5 romans, à ma connaissance. Oui. Quitte à faire quelques approximations qui nous font bien rire, mais nous sommes les seuls au monde à en rire. Vous savez, dans Atala, Chateaubriand fait reposer Atala sur un lit de sensitive géante. Nous, nous savons qu'à Edonie, c'est strictement impossible. Autant dormir sur des cactus. Et le personnage de Didier Denynx les fait franchir les murs de leur prison, car, comme on sait, ils étaient habitués à monter au bananier. Comme on sait, c'est vraiment une plante sur laquelle on peut monter le bananier. Mais c'est pas grave. C'est parfois de tels détails qui montrent que la personne ne connaît pas son sujet. Moi, quand je lis un livre sur l'équitation, moi qui ai mis 30 ans mes fesses sur un cheval, je m'attends à retrouver certaines choses. Et je ne l'ai pas. C'est curieux, comme quelqu'un qui adorerait la moto, qui a fait de la moto toute sa vie, et qui n'aurait absolument pas dans le livre la sensation de la chose. Vous voyez ? Donc, je crois beaucoup en la déontologie de l'écrivain américain qui dit, si tu ne sais pas de quoi tu parles, essaye de te renseigner, non pas à travers la documentation, mais en essayant de vivre les choses un minimum. Non ?
Oui, monsieur.
Je savais que ce serait passionnant aujourd'hui, mais Frédéric, mais un des trous d'histoire qui me semble important, que moi je considère que je ne pas connaître du tout, c'est cette traite mélanésienne pacifique qui est évidemment pratiquement inconnue ici, tout au moins, dont on parle peu, en nombre. La traite africaine vers les Antilles, donc l'Amérique du Sud, elle, même si le rapport est de 1 à 100 ou de 1 à 1000, je ne sais pas, c'est toujours, le crime est toujours là.
Oui.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez parlé que ça allait jusqu'aux côtes du Chili.
Oui, absolument.
Ça, c'est passionnant, parce qu'on sait effectivement qu'il y a déjà les Indiens au Chili étaient recrutés pour les mines, et en même temps, on avait encore besoin, semble-t-il, de cette traite mélanésienne vers le
Et je pourrais vous dire que la fameuse île de Rapa Nui, l'île de Pâques, on dit toujours, oui, bon, ils ont disparu. Ah non, non, hein. Les Black Birders ont bien aidé à la disparition de la population. Hein. Je vous le confirme. Là, c'est pas devenu désertifié d'un seul coup. Hein. Alors, ce que je voudrais dire aussi, parce que c'est pas tellement connu dans l'histoire du Pacifique, oui, bien sûr, les Français, les Anglais, mais il y en a eu d'autres avant eux. Hein. Ils s'appelaient les Hollandais. Et avant les Hollandais, il y en a eu d'autres. Ils s'appelaient les Portugais. Et avant les Portugais, il y en a eu d'autres. Ils s'appelaient les Espagnols. Ça fait quand même un demi-millénaire de présence européenne dans le Pacifique. Cette antériorité historique, on n'en a pas conscience. La Nouvelle-Calédonie n'est découverte qu'en 1774 par James Cook lors de son deuxième voyage. Mais l'archipel de Vanuatu est découvert en 1505. Pratiquement 2 siècles avant. C'est vous dire à quel point l'Europe a partie liée avec le Pacifique, même si on l'ignore puissamment. Il y a des gens parmi nous qui ont fait des mémoires de maîtrise sur la compagnie française pour les Philippines, n'est-ce pas ? Non, mais ça me frappe toujours, cette perspective historique que nous n'avons pas. Souvent, l'attitude actuelle, c'est à considérer que c'est loin, et que donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Ce que Jean-François Samelan appelle la mise à part géographique ou l'apartheid géographique. C'est loin, donc. C'est quand même les 2/3 de la surface du globe, hein, je vous le rappelle, le Pacifique. Et que rien que l'archipel de la Polynésie, c'est plus grand que l'Europe. On a du mal hein, à se représenter les choses. Moi, ça me fascine. Que dès le début du XVIe siècle, des Espagnols aient fréquenté assidûment le Pacifique et traversé aller-retour Los Angeles-Manille 4 fois, 5 fois par an. Et pour cause, à l'époque, le poids valait plus cher que le même poids en diamant. Mais je pense qu'ils ont pratiqué le blackbirding eux aussi. Déjà. Quid des populations originelles des peuples premiers des Philippines.
Merci Frédéric Collet.
Merci à vous. Et je tenais à remercier le Festival des Outre-mer et surtout ce lieu qui nous accueille aujourd'hui et tous ceux qui m'ont écouté avec tant de patience. Merci à vous.